Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Plan pour l'éducation artistique et culturelle, réforme de l'audiovisuel public, financement de la création européenne par les plateformes web. Nous accueillons Françoise Nyssen, ministre de la Culture. Bonjour Madame la Ministre.
Bonjour.
Pour évoquer ces différents dossiers, je sais que vous êtes une auditrice fidèle de France Culture, donc vous voyez les visages qui composent la station. Et tout d'abord, une question sur le ministère de la Culture sur les différentes interrogations lancinantes depuis déjà de nombreuses années. À quoi sert un ministère de la Culture, Françoise Nyssen?
Cher Guillaume, vous venez d'y répondre. Vous avez évoqué l'éducation artistique et culturelle, la régulation des plateformes en Europe, l'accès à la culture. Est-ce que vous poseriez cette question, par exemple, au ministre de l'Éducation nationale, au ministre du Travail, de l'Économie? Bien sûr que la culture, c'est ce qui nous fonde. Référez-vous au discours de Victor Hugo devant l'Assemblée nationale en 1948, qui défend cet institut.
Qu'est-ce qu'il disait Victor Hugo à l'époque?
Il disait que, bien sûr, il fallait tenir un État, tenir ses dépenses, mais que ce qui fonde notre richesse, à savoir la richesse de l'esprit et toutes les richesses de l'âme, eh bien, il fallait l'accompagner plus que jamais par ces temps-là et par ces temps-ci.
Qu'est-ce qui constitue d'ailleurs la culture de Françoise Nyssen? Alors, on sait que vous étiez éditrice, mais qu'est-ce que vous aimez? J'ai l'impression que vous avez des goûts assez éclectiques. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques aperçus de votre culture?
Écoutez, je crois que je peux me définir comme quelqu'un d'extrêmement curieux. J'adore découvrir. D'ailleurs, pendant 40 ans, j'ai passé mon temps à découvrir. En écoutant France Culture, j'aime découvrir, mais aussi les autres radios, bien évidemment. Et c'est une véritable passion. Et c'est vrai que je me nourris au quotidien de musique, de cinéma, de théâtre, de littérature, de visites.
Alors, je sais que c'est toujours difficile pour une ministre de la Culture de faire des choix, parce que vous voulez fâcher personne, mais en tout cas, parmi les artistes que vous suivez depuis longtemps, donnez-nous quelques exemples de ces artistes.
Écoutez, des artistes qui interrogent à leur façon le monde, et que je suis depuis longtemps, et avec qui j'entretiens des relations de, je dirais, presque de nourriture. Je pense à Michelangelo Pistoletto, qui est un des grands plasticiens et un des fondateurs de l'Arte Povera, qui est aussi une façon d'interroger l'art pour ce qu'il peut nous dire du monde, comment accompagner, comment réfléchir devant. C'est lui qui a inventé cette expression tellement jolie qui s'appelle la démopraxie. C'est-à-dire que c'est pas tellement la démocratie que le fait de pratiquer qui permet un véritable partage et une véritable implication de chacun dans l'avenir qui nous concerne tous.
Et lorsque, par exemple, vous fréquentez les œuvres de J.R., je crois qu'il y a également Anselm Kiefer qui vous est proche, en tout cas ses œuvres vous sont proches. Qu'est-ce que vous y trouvez, Françoise Nyssen?
Des interrogations, une émotion, souvent c'est une émotion, mais vous en citez deux qui interrogent en permanence l'histoire, notamment pour Anselm Kiefer. Mais il faut s'être promené dans cet incroyable lieu qui s'appelle Barjac, où il a construit, installé un nombre incroyable de ses sculptures, c'était absolument impressionnant, et accueilli aussi des jeunes artistes, parce que c'est ça aussi, ces grands artistes qui sont nos références, mais qui sont aussi les passeurs et les accompagnateurs des jeunes artistes qui seront les grands de demain. Donc, j'aurais envie de vous parler, par exemple, je suis arrivée au ministère, il y avait dans le salon Jérôme, il y avait un portrait du prince Jérôme, qui était le premier habitant de la rue de Valois, et j'ai mis à la place une magnifique tapisserie qui était la représentation d'un tableau de Louise Bourgeois, grand artiste qui est plus connu pour...
Présentez-nous Louise Bourgeois.
Alors, c'est une artiste franco-américaine qui est très connue pour ses grandes araignées. C'est une artiste qui disait les femmes, qui disait la cause des femmes, qui disait la souffrance des femmes. J'ai mis dans la salle à manger du ministère où j'accueille les visiteurs des tableaux de cette jeune entre guillemets, artiste libanaise, était Adnan. Et aussi, toujours dans le Salon Jérôme, des sculptures d'un jeune Syrien qui est accueilli à l'atelier des artistes en exil dans le 18e. Vous voyez, donc c'est très éclectique, mais c'est parce que ces gens nous disent aussi quelque chose du monde et ils nous interrogent. Et c'est en cela que moi-même, je me nourris d'eux. Mais je vous parle là d'artistes plasticiens. Mm-hmm. Vous parliez de J.R., je pourrais vous parler des musiciens, de la musique, à la fois de la musique classique, mais de la chanson. Moi, je suis une férue de chansons.
Par exemple ?
Ah, écoutez, je vais vous parler de la plus belle chanson du monde, qui malheureusement pas assez connue, qui est une chanson qui a été écrite par Anne Sylvestre, qui s'appelle « Une sorcière comme les autres », chantée par Pauline Julien. Alors, je vous invite à la connaître.
Je ne la connais pas, je ne peux pas vous la chantonner malheureusement.
Je pense que c'est une chanson à connaître qui dit les femmes mieux que tout autre texte.
Le ministère de la Culture est un ministère compliqué, notamment parce qu'il est double. C'est le ministère des artistes et c'est le ministère du public. Les artistes, vous les voyez quotidiennement, vous pensez à eux. Aujourd'hui, d'après vous, quelles sont leurs craintes? Pourquoi sont-ils inquiets, Françoise Nyssen?
Mais c'est constitutif de l'artiste. Si quelqu'un devient artiste, s'exprime de cette façon-là, c'est qu'il a une interrogation. Donc forcément, c'est par essence même des gens qui, posant les questions du monde, étant dans cette émotion-là, sont forcément des gens inquiets. Et il s'agit d'être à l'écoute et de les accompagner. Et ça, c'est un rôle bien précis du ministère de la Culture. C'est sur tous les sujets qui peuvent les interroger, d'être là et de les accompagner. C'est eux qui font la richesse de notre pays. C'est eux qui font la fierté de la France, ici, partout. Ils sont donc l'écoute et l'accompagnement des artistes, elle est essentielle.
Alors justement, vous, Françoise Nyssen, ministre de la Culture, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ces artistes? Il y a beaucoup d'interrogations aujourd'hui sur des budgets en diminution, sur des questions de droits d'auteur, qui sont des questions essentielles pour eux, puisque ce sont leurs moyens d'existence, tout simplement.
Alors pour la question des budgets, je reprends le discours de Victor Hugo à l'Assemblée en 48. Il n'y a pas de diminution de budget de la culture. Le budget du ministère de la Culture est un budget qui est maintenu, qui est même en légère augmentation. Donc il ne s'agit pas de cela. Et puis le ministère de la Culture, ce n'est pas qu'un budget. Ce sont des équipes, c'est des politiques. C'est une façon d'accompagner et ces artistes et de faire en sorte que la culture soit accessible. Parce que c'est ça la grande question aujourd'hui de la culture c'est ce qui nous fonde, mais c'est ce qui aussi peut séparer. Il y a quand même toute une partie de la population qui n'a pas accès pour toutes sortes de raisons ou qui dit la culture c'est pas pour moi, c'est pour les autres.
Mais alors justement, avant de parler du public, il y a quand même beaucoup d'artistes, Françoise Nyssen, qui disent bon, la culture c'est une coterie, il y a l'art officiel, celui qui est légitime, puis il y a l'art des marges qui lui n'est pas reconnu. Est-ce qu'il y a un certain nombre de politiques qui peuvent être menées pour ces arts-là, qui ne sont pas forcément des arts reconnus?
Alors le ministère de la Culture est attentif à toute forme d'expression et elles sont multiples. Alors vous parlez des auteurs, ils ont toujours été, écoutez, j'ai passé 40 ans à accompagner, 40 années de ma vie, à accompagner
quand
des
auteurs. Vous étiez éditrice.
J'ai accompagné des auteurs, à accompagner des musiciens, parce que pendant le même temps, j'ai organisé des concerts, j'ai des lectures, donc je suis dans cette attention, je dirais, viscérale aux créateurs et c'est eux qui font la richesse de ce monde et qui nous transmettent la culture. Donc évidemment, il s'agit d'être attentif à tous leurs modes d'expression. Et le ministère de la Culture est attentif à tous les modes d'expression, que ce soit le design, que ce soit les arts plastiques, que ce soit la musique, la création, l'interprétation, enfin la littérature. Tous les arts sont présents et sont dans le travail que nous faisons au quotidien au ministère de la Culture.
Alors parlons maintenant du public, puisque c'est effectivement un point sur lequel vous avez beaucoup insisté. Il faut que la culture aille vers le plus grand nombre. C'est un discours que l'on retrouve chez vos prédécesseurs. Quelles sont les mesures que vous avez engagées, que vous voulez engager, Françoise Nyssen, pour que cette démocratisation ne demeure pas lettre morte?
Oui, c'est une grande question. Repartons au constat. Aujourd'hui, c'est vrai que la France rayonne et riche de sa culture, grâce à ses artistes, rappelons-le, toujours. Mais pour autant, c'est vrai que toute une partie, il y a une fracture, il y a des populations entières qui n'ont pas accès, il y a tout un pan du public qui dit non, c'est pas pour moi, ça me concerne pas. Ça peut créer aussi, je veux dire, d'une certaine façon, la culture peut rassembler, peut être ensemble, écouter un concert, écouter ensemble France Culture, aller voir une exposition ensemble, et puis il y a ceux qui n'y vont pas. Et c'est vrai qu'il y a cette fracture, elle existe, et donc c'est la principale attention que nous portons, c'est de travailler, de voir comment faire pour que cette fracture n'existe plus. Et c'est une obsession, une ambition. Et pour cela...
Alors concrètement, Françoise Nyssen, qu'est-ce que vous pensez faire? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous voulez faire pour que, précisément, la culture aille vers les publics qui ne sont pas nés pour elle? C'est-à-dire qu'on connaît tous les obstacles qui peuvent intimider dans un musée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire tomber ces obstacles?
Écoutez, commencer au plus tôt, c'est-à-dire dès le plus jeune âge. C'est-à-dire la formation culturelle à l'école. Que tous les enfants, parce que l'école, par excellence, c'est le lieu de l'égalité. Et amener de façon massive et la culture à l'école me paraît le premier élément pour lutter contre cette ségrégation culturelle. Et c'est un des points forts de la politique que je mène. Il y a quelques jours, enfin deux jours, je présentais avec Jean-Michel Blanquer ce plan de l'école des arts et de la culture, parce que c'est là que peut se prendre cette politique-là. C'est vrai que les enfants ne sont pas tous égaux selon d'où ils viennent. Mmh. Ils n'ont pas, à l'école, ils y sont, mais en dehors, la différence peut vite se creuser entre ceux qui ont l'habitude d'aller, ou la possibilité d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, d'aller voir une exposition. Donc il est vraiment capital de faire en sorte que la culture soit accessible et qu'elle soit à l'école, qu'elle empêche que se creuse ce fossé entre les enfants dès cet âge-là. C'est la première priorité, je dirais, de la politique que je mène depuis que je suis arrivée. Et la deuxième, c'est évidemment de faire en sorte que cette culture soit partout accessible. Et donc c'est les territoires, c'est,
alors justement,
faire en sorte, c'est la proximité.
Comment faire pour se mettre à la portée donc, de tous dans ces territoires des pièces, des œuvres qui généralement sont réservées à des métropoles? Est-ce qu'il y a une possibilité concrète? Il y a eu un certain nombre d'expérimentations. Que souhaitez-vous faire, Françoise Nyssen, à ce sujet?
Il y a plein de champs sur lesquels on peut travailler et sur lesquels nous avons déjà déployé des politiques. Je peux citer celle sur le patrimoine, par exemple, puisque on sort des Journées européennes du patrimoine, qui est une véritable passion française. 12 millions de personnes qui vont voir le patrimoine près de chez eux ou qui viennent visiter des lieux qu'ils n'ont pas l'habitude de visiter. Par exemple, rien que rue de Valois, c'est plus de 10 000 personnes qui viennent visiter les bureaux de la République. Bon, voilà, ça, c'est une façon de travailler sur la culture de proximité. Mmh. Et l'autre axe sur lequel on a travaillé sont les bibliothèques. À peine arrivé, j'ai décidé de confier une mission à ce passionné de lecture qui est Eric Orsena pour développer et déployer un plan qui facilite encore plus l'accès, l'ouverture aux bibliothèques pour l'ensemble de la population.
Alors justement, ce plan, il en est où? Puisque bien souvent, les médiathèques, les bibliothèques sont fermées le week-end ou en tout cas le dimanche. Est-ce qu'il y a une possibilité? On sait que bon, cela passe par un certain nombre de négociations. Françoise Nyssen, où en êtes-vous à cet égard?
Alors, le plan est en route puisque Eric Orsena nous a remis en février de cette année des propositions et je dirais un rapport très très étayé sur l'importance de ces maisons de services publics culturels. Je dirais il y en a 16 000 en France, c'est énorme. Le territoire est maillé par ces lieux qui sont des lieux d'accueil, et effectivement il s'agit que ces lieux d'accueil soient accueillants aux heures où on peut les fréquenter. Et donc il y a tout un travail sur les bibliothèques. Mais comme on parlait de la proximité et de l'accès aussi, c'est ce plan qu'on a déployé qui s'appelle la culture près de chez vous, où on propose et on demande aux artistes qui le font déjà de façon assez systématique, mais on généralise en fait. Le ministre de la Culture fait un peu le chef d'orchestre et l'effet de levier par rapport à toutes ces politiques qui existent, mais qu'il s'agit de déployer, d'organiser de façon cohérente, donc des artistes sur les routes pour aller au plus près des gens, des œuvres aussi. Pourquoi des œuvres ne seraient accessibles que pour ceux qui peuvent venir, par exemple, dans la capitale?
Alors, si on résume votre politique, Françoise Nyssen, pendant très longtemps, on a été dans le domaine du ministère de la Culture, dans le développement de l'offre, autrement dit, du côté des artistes. Vous, vous souhaitez passer du côté de la demande, en étant du côté des publics, et notamment en prenant un public jeune. Parce que, en fait, il y a un certain nombre de sociologues, il n'y a pas que des artistes dans la vie, Françoise Nyssen, il y a aussi des sociologues de l'art. Et eux pensent que si l'on multiplie les contacts entre l'art au plus jeune âge, notamment auprès des publics qui n'ont pas dans leur famille des gens cultivés, eh bien on peut faire en sorte que l'art se diffuse parmi tous, ou en tout cas auprès du plus grand nombre. Est-ce que c'est ça finalement ce que vous avez essayé de faire, ce que vous nous expliquez sur les médiathèques, sur l'éducation artistique et culturelle?
Alors, ça, c'est la culture près de chez vous, la proximité, en cela aussi, tout ce qui se fait au niveau de la proximité dans l'audiovisuel public. Enfin, la notion de proximité, c'est vraiment un axe fort de la politique que je mène. Mais la culture à l'école, dès le plus jeune âge, c'est, d'une certaine façon, ce qu'on pourrait dire, la confrontation sensible. On est culture, c'est ce qui nous fonde. Donc, d'être, dès le plus jeune âge, nourri de culture, entendre les mots, c'est merveilleux face à une œuvre. Eh bien, c'est quelque chose qui peut changer notre destin, notre parcours. C'est aussi ce qui permet, dès le plus jeune âge, de prendre confiance, de ne pas être assigné au rôle auquel on pourrait être assigné par le lieu d'où on est issu, la famille, etc. Donc, c'est fondamental que ça se passe dès le plus jeune âge, à la fois pour se constituer en tant qu'être humain et en même temps pour qu'on ne soit pas dans une situation d'inégalité croissante au fur et à mesure du parcours scolaire. Donc, cette notion de la culture à l'école, dès le plus jeune âge et de façon intense, elle est essentielle.
L'autre question qui se pose souvent au ministre de la Culture, c'est l'opposition entre une culture de droite, le patrimoine, je le dis très schématiquement, et pour vous faire sursauter, d'ailleurs vous sursautez, et une culture de gauche qui, elle, serait plus constituée de choses abstraites, avec parfois aussi toute une dimension provocatrice. Comment vous opérez ce choix, puisque vous n'avez pas l'air de vouloir accepter ce clivage?
Mais définitivement, fonctionner en compartimentage, en silo, ça n'a aucun sens. Et vous parlez de politique patrimoniale, de plus en plus, eh bien, les grands lieux patrimoniaux sont habités aussi par des créations d'artistes, les choses se mélangent et donc il n'y a absolument pas à faire d'un côté cette culture qui serait dite de gauche par rapport à une culture de droite qui serait le patrimoine. Les Français sont extrêmement fiers de leur patrimoine, ils ont à cœur. On le montre, toutes les opérations qui se jouent, que ce soit l'auto du patrimoine, que ce soit les plateformes de financement du patrimoine, tout montre l'engagement et comment les Français sont attachés à leur patrimoine.
Françoise Nyssen, on se retrouve dans une vingtaine de minutes pour continuer à évoquer votre politique, puisque vous êtes ministre de la Culture, évoquer également les actions à venir. On parlera notamment du Pass Culture, qui est l'une des actions que vous souhaitez engager vis-à-vis des jeunes. En attendant, il est 8h sur France Culture. Nous sommes en compagnie de la ministre de la Culture, Françoise Nyssen. Par rapport à ce que vient de dire Frédéric Say sur cette affaire Benalla, votre point de vue, on ne vous a pas entendu, Madame la Ministre.
Écoutez, je n'ai pas ajouté à ce billet extrêmement étayé sur du point de vue juridique. Bon, tout acte violent, effectivement, est troublant. La vidéo, quand on a pu l'observer en boucle, m'a choqué. Mais il y a eu décision rapide du président et qui me paraît parfaitement appropriée.
Est-ce que ça révèle quelque chose sur la nature de la Macronie, comme on a pu le lire, Françoise Nyssen?
À partir de cet acte-là et de faire tout ce qui s'ensuit, je crois que c'est une façon de... Non, je ne pense pas que ce soit un révélateur. Je pense qu'il y a tellement d'autres choses. Et là, je suis là pour vous parler de la culture qui habite l'ensemble du gouvernement et notamment le président avec qui j'ai passé pas mal de temps ces derniers temps pour les journées du patrimoine, pour des spectacles. Enfin, voilà, il y a des tas de choses qui sont autrement révélateurs, révélatrices de ce qu'est ce gouvernement.
Mais justement, parce que on vous écoute depuis quelques minutes, Françoise Nyssen, vous êtes une femme de culture, et on se dit finalement, qu'est-ce que vous êtes venue faire dans cette galère? Et par exemple, l'Express est de ce jour, il y a donc Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, et les journalistes qui sont un peu malicieux ont titré d'une phrase sur l'immigration de Gérard Collomb, sur l'immigration, je le cite, « Sortons du politiquement correct ». Elle vous plaît cette phrase?
Écoutez, c'est Gérard Collomb est par définition un homme politique, une véritable bête politique. J'étais encore avec lui à Lyon pour cette extraordinaire Biennale de la danse et ce défilé extraordinaire avec tous les quartiers et les petits, les grands, les vieux, les jeunes, les gens de toute origine qui dansent ensemble. Bon, voilà, c'est ça Lyon, c'est ça aussi.
Vous voulez dire qu'il n'est pas aussi méchant qu'il n'en a l'air?
Il n'est certainement pas méchant et il est certainement aussi habité par la culture. Vous parliez de qu'est-ce que j'étais venu faire dans cette galère? En responsabilité, j'ai passé ma vie à m'engager, à accompagner. La création, accompagner les artistes, à défendre, à proposer une vie culturelle aussi. C'est ça que je suis venue faire en responsabilité. C'est un engagement. Je ne considère pas autrement ma vie qu'en responsabilité.
Frédéric Saïs. Justement, quand vous êtes apparu au gouvernement, les commentateurs ont parlé de la société civile à travers votre exemple, ce qui est une expression assez curieuse, voire agaçante, comme si les responsables politiques n'étaient pas issus de la société ou n'étaient pas des gens civils. Pourtant, vous avez maintenant 16 mois d'expérience à la tête de ce ministère. Avec le recul, qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans la fonction politique? Ce à quoi vous vous attendiez le moins, finalement?
Écoutez, je crois que ce n'est pas très intéressant de voir ce qui m'a surpris. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on peut faire quand on y est. Et c'est un lieu où on peut faire, on peut accompagner. Cette politique que je mène de façon déterminée pour faire en sorte que cette ségrégation culturelle qui existe, on puisse espérer que à la fin du quinquennat, les enfants ne disent plus « ça, c'est pas pour moi », que l'ensemble de la population se sente autorisée par les différents dispositifs qu'on met en place.
Mais est-ce qu'il y a eu des obstacles auxquels vous ne vous attendiez pas?
Mais la vie n'est jamais sans obstacles. Et la vie est faite pour avancer et justement les obstacles pour être dépassés. Toute ma vie, je n'ai fonctionné que comme ça.
Mais je connais mon camarade Saïs, je sais qu'il a des arrière-pensées. Alors parmi les obstacles que l'on peut penser et avoir mis sur votre chemin, il y a par exemple cette interview, pas forcément gentille, d'une ancienne députée La République En Marche, Frédéric Dumas, dans Le Parisien. Alors on dit qu'elle briguait votre poste, il y a beaucoup de gens qui briguent votre poste. Et puis alors elle dit, bon mais Françoise Nyssen ne peut pas défendre le patrimoine puisque dans les travaux qu'elle a faits dans l'hôtel particulier que sa société occupait, devrais-je dire, puisque vous n'êtes plus à la tête de cette société, même si cette société poursuit l'occupation de ce bien, eh bien vous n'avez pas respecté un certain nombre de règles liées au code de la construction. Votre réponse à Frédéric Dumas et à ceux finalement qui tiennent ce discours, Madame la Ministre?
Je crois que Frédéric Dumas exprime surtout, elle parle d'elle, hein, elle parle de sa frustration. Et est-ce qu'elle cherchait une reconnaissance, une gratitude individuelle? Moi, c'est pas ce que je cherche, ça ne m'intéresse pas. Donc je pense qu'elle parle plus d'elle-même que d'autre chose.
Elle parle aussi du fond dans cette interview du Parisien. Vous savez que ça a été aussi la rapporteure des travaux parlementaires pour la future loi sur l'audiovisuel qui est en train d'être bouclée, qui sera présentée d'ici la fin de l'année sous votre autorité, évidemment. Et elle dit, cette loi, elle a été menée, je cite ces termes, évidemment, avec la mainmise de technocrates hors sol et cyniques. Et selon elle, cette réforme consiste à habiller des économies. C'est encore son expression. Question simple sur cette réforme. Comment pouvez-vous, ministre de l'Agriculture, évidemment, garantir, par exemple, la spécificité de toutes les chaînes du service public?
Mais écoutez, sa déclaration est paradoxale. Elle a fait effectivement un travail, mais elle l'a fait de son côté. Il y a des parlementaires qui prennent leur dossier avec beaucoup de sérieux, de passion, de connaissances et qui travaillent ensemble. Je crois que le fait de travailler ensemble, c'est une force. Et cette transformation de l'audiovisuel pour aller... pour s'adapter aux enjeux du numérique, aller vers encore plus vers les publics, vers l'excellence, ce que nous partageons ici. Elle s'est faite effectivement pas de façon isolée et pas avec une idée budgétaire, mais une idée d'avancer ensemble. Et elle s'est faite précisément avec les gens qui le font, et notamment les responsables des différentes sociétés. Donc c'est typiquement là, on est sur deux façons de travailler. Ou on fait ensemble, ou on fait de son côté tout seul et on cherche de la reconnaissance.
Mais alors je continue de vous embêter, Madame la Ministre, parce que donc sur ces travaux, lorsque on dit voilà, vous défendez le patrimoine et vous n'avez pas respecter un certain nombre de règles, qu'est-ce que vous répondez ?
Écoutez, je réponds ce que j'ai répondu. Actes Sud s'est engagé au cas où il y a des mises en conformité qui s'avéreraient nécessaires, ils s'y conformeront, bien évidemment.
Une question sur la redevance. Vous étiez il y a quelques jours dans l'ouest de la France. Vous avez lancé un débat sur la redevance au nom de l'équité en fait entre ceux qui regardent les programmes sur leur téléviseur qui payent les 139 euros annuels et puis ceux qui regardent par exemple la télévision sur ordinateur ou sur tablette et qui ne paient pas évidemment cette redevance qui est liée à la possession d'un téléviseur. Alors évidemment ce n'est pas pour tout de suite cette réforme, mais quelles sont les pistes sur la table qui vous sembleraient justifiées ?
Mais effectivement, vous évoquez la redevance télé qui était un élément d'une intervention qui était beaucoup plus générale et qui était sur la régulation et sur la protection du droit d'auteur.
Et qui n'est pas une question anodine.
Et qui n'est pas une question anodine, mais vous savez que la redevance sera affectée effectivement par la suppression de la taxe d'habitation, puisqu'elle est aujourd'hui recouvrée en même temps que la taxe d'habitation. Et là, ce qui a été dit, c'est que le gouvernement réfléchit à la manière dont fonctionnera la redevance télé, une fois la taxe d'habitation disparue.
Mais vous, François Nivisan, vous avez
y a pas d'urgence. Il y a pas, mais pour l'instant, aucune décision n'a été prise, et ni sur le futur circuit de recouvrement de la taxe, ni sur l'évolution de ces règles. Et une chose que je peux affirmer et dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura pas de hausse de la redevance, ni de recette de la redevance. Je crois que c'est ça qu'il faut dire à nos auditeurs.
Alors, parmi les mesures importantes que vous portée, Françoise Nyssen, il y a le fameux pass culture. Et alors, j'ai entre les mains, justement, ce pass culture qui se présente sous forme d'appli. Parce que, en fait, c'est ça qui est l'une de ses particularités. C'est une application, donc, sur un téléphone portable. Et c'est une application qui permet, je suis en train, donc, d'avoir entre les mains la version bêta, comme on dit. Donc, c'est une version en développement qui permet, en fait, aux jeunes, et peut-être aussi, d'ailleurs, aux moins jeunes, de visualiser où il y a un certain nombre de spectacles, un certain nombre de créations culturelles, et donc d'avoir accès, ou plus facilement accès à cette culture. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu, Françoise Nyssen, comment ça va marcher ?
Bon, d'abord, le principe de la chose, c'est vraiment un outil de reconquête d'un public éloigné. On parlait de ségrégation culturelle. Vous me posiez la question de savoir comment on peut faire, et bien clairement, le pass culture est un outil formidable pour permettre cet accès à la culture, puisque, comme vous l'avez dit, c'est un outil d'information. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est une application mobile, géolocalisée, pour utiliser un terme courant, qui permettra à tout jeune qui s'en servira de savoir la multiplicité de l'offre à proximité de chez lui. Et avec l'offre dans sa globalité et dans tous ces aspects, et ça rejoint toutes les lignes de force de la politique que je mène, notamment tout ce qui concerne la pratique artistique et culturelle. Un cours de hip-hop, un cours de théâtre, une rencontre avec un auteur dans un café, dans une librairie, une exposition commenter avec des artistes ou des médiateurs. Donc, pratique, accès, pratique. C'est vraiment les éléments phares de ce pass culture.
Et alors, concrètement, c'est pour quand et c'est pour qui ?
Alors, le pass culture, tel qu'il a été annoncé dans le programme du président, c'est à 18 ans, les jeunes recevront un pass culture qui correspondra à un montant de 500 euros. Donc, vous voyez un peu la logique.
À partir de quelle année ? Parce que Frédéric Saïs est proche des 18 ans, mais je crains que ça soit malgré tout raté pour
c'est
lui.
Raté
mais
pour nous, je crois.
Donc ça sera pour quelle génération ?
Alors, on a travaillé de façon tout à fait originale pour établir ça, parce que on avait vraiment le sentiment qu'on avait là la possibilité de déployer une politique d'accès totalement cohérente avec les grands objectifs que nous nous fixons par rapport à l'accès à cette ségrégation culturelle. Donc, on a travaillé un peu avec les outils, les méthodes de notre époque. On a développé à travers ce qu'on appelle une start-up de l'État, parce que ça existe, et nous sommes un des premiers ministères. En tout cas, c'est la première start-up que le ministère de la Culture développe. On l'a fait, on a développé cela en travaillant aussi dans des ateliers avec des jeunes et avec des publics concernés, avec des, ce qu'on peut appeler des offreurs, les acteurs culturels, pour le déployer. Pour avancer, on a décidé de faire des expérimentations. Mmh. Donc on a eu une première phase, c'est fait quelques mois que le processus démarre.
L'expérimentation est en cours.
Donc on a fait une première phase de test technique, parce qu'il s'agissait que...
Voilà, donc là, je l'ai sous les yeux, elle fonctionne.
Voilà, que les jeunes le prennent en main, qu'on voit comment elle fonctionne. Et on l'a fait, cela, sur 5 territoires d'expérimentation, avec une population variée et avec des spécificités particulières. Par exemple, en Guyane, par exemple, dans l'Hérault, en Bas-Rhin, en Finistère, en Seine-Saint-Denis. Donc, avec des jeunes qui sont dans ces différents territoires, on a testé au niveau technique. Et maintenant, on va commencer une phase d'expérimentation en vraie grandeur, à partir de l'automne, pour que 10 000 jeunes de l'ensemble de ces territoires puissent tester cette application
que j'ai sous
avec
les yeux.
La possibilité de l'accès pour 500 euros à toutes sortes de pratiques et de sorties.
Alors, il y a des professionnels de la culture, mais pas que d'ailleurs, qui sont un peu sceptiques parce qu'ils disent, bon, mais il y a déjà beaucoup d'actions de gratuité vers les jeunes. Est-ce qu'il fallait vraiment une étape de plus? Est-ce que, encore une fois, ça ne va pas profiter aux mêmes? Puisque finalement, c'est ça, en fait, la critique des processus de démocratisation d'accès à la culture.
Et la critique vient de l'interrogation, je dirais, d'une certaine façon. Et l'interrogation permet d'y répondre. Et donc, je vous remercie de me poser toutes ces questions, parce que c'est important de dire exactement ce qu'il est. Ça n'existe pas, c'est complètement nouveau. Un outil qui dit tout ce qui se passe à proximité, mais pas uniquement dans « y a-t-il spectacle ?» Non, tout ce qui peut se passer autour, c'est-à-dire... un avant-spectacle avec les acteurs pour dire quel est l'engagement dans le pourquoi ce spectacle, c'est-à-dire une exposition. Oui, certes, mais on peut, grâce à Space Culture, organiser la visite ensemble. Parce que une chose, moi, qui m'a vraiment touchée et qui m'a vraiment touchée,
oui.
C'est que les jeunes, chaque fois qu'on se retrouve avec eux, disent ce qui est extraordinaire. Ils le disent, hein, donc je les cite. C'est incroyable parce que ça nous dit, ça nous permet d'avoir accès à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé et ça nous permet de faire des choses ensemble.
Mais alors, là aussi, on a entendu des critiques dans le domaine de la culture. Par exemple, Robin Renucci a fait paraître une tribune où il explique qu'il y a aujourd'hui une politique culturelle qui est plutôt marquée par le retrait de sa présence sur les territoires. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ont signé cette tribune? Je crois que vous avez vu Robin Renucci récemment.
Écoutez, ce sont des acteurs de la culture que je rencontre de façon permanente et qui font exactement ce qu'on a proposé dans le plan Culture près de chez vous. Le Pass Culture est une politique qui répond complètement à ce qu'ils souhaitent faire. Il suffit juste qu'ils s'informent, je dirais, correctement sur ce que représente ce Pass Culture, qui est une chance pour eux aussi, parce que ça va être une façon de montrer ce qu'ils font.